Radio Germaine.
Popcorn, l'émission pour savourer le cinéma.
Saison 15.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Popcorn Salé. Je suis Margot et ce soir je suis en très bonne compagnie puisqu'à mes côtés se trouve Enora.
Bonsoir.
Pauline.
Bonsoir.
Juliette.
Bonsoir.
Et Arthur.
Bonsoir.
Ce soir, une actualité cinématographique démoniaque. Le mal n'existe pas, ou alors il existe dans les restrictions budgétaires pour l'hôpital public, parce qu'on est engagé ici. Mais tout d'abord, une question d'actualité inévitable, puisque hier, donc le 11 avril, on a pu découvrir la liste des longs métrages sélectionnés en compétition officielle à Cannes, ainsi que dans la sélection Certains regards, hors compétition, en séance de minuit, à Cannes première et en séance spéciale. Donc on peut notamment noter la présence de vétérans avec le très attendu Mégalopolis de Coppola ou encore des films de Cronenberg, de Lanthimos ou de notre Frenchie préféré, Christophe Honoré. Donc est-ce que vous voudriez parler de cette sélection? Qu'avez-vous à dire là-dessus? Est-ce que Enora, tu veux commencer?
Alors moi je suis très contente de cette sélection parce qu'il y a un peu de tout, il y a des gens qu'on attendait, comme tu as dit, Coppola, Cronenberg, qui sont personnellement moins ma cam, mais qui sont attendus quand même avec un gros cast. Il y a un peu des films plus indépendants mais de réalisateurs assez connus, je pense à Sean Baker et son Anora. Moi je pense qu'il s'est trompé de titre mais c'est pas grave. Sean Baker qui avait fait le Florida Project notamment. Et puis des nouveaux réalisateurs et réalisatrices comme un premier film je crois d'Agathe Redinger qui est une française qui a fait Diamant Brut. D'ailleurs elle ressemble beaucoup à Juliette Ducournau physiquement, enfin bref. Mais par contre je trouve qu'il y a assez peu de réalisatrices quand même, il n'y en a que 4 sur 19 en compétition. Alors on sait qu'ils vont en rajouter 2-3 encore des films en sélection officielle, en compétition officielle. Mais bon, moi j'aurais bien aimé voir Audrey Diwan avec son Emmanuel, qui est un film, une adaptation d'un roman érotique, avec Noémie Merlant. Mais par contre, dans Un certain regard, il y a pas mal aussi de premiers films de femmes et de films d'actrices comme Noémie Merlant et Laetitia Deutsch. Donc ça s'annonce assez sympathique comme sélection. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé.
Moi, je vais me joindre à toi sur le fait que je déplore le petit nombre de réalisatrices, malgré le fait que on en avait parlé à Popcorn. C'est Greta Gerwig qui est la présidente du jury de la compétition officielle. Et malgré ça, donc là, j'ai les chiffres sous les yeux du collectif 50-50, donc qui, si vous ne le connaissez pas, est un collectif qui œuvre pour plus d'égalité, enfin pour l'égalité homme-femme, la parité dans le cinéma. Et on n'y est toujours pas, puisque il y a seulement 21% de réalisatrices dans la sélection officielle. On a 4 femmes dans la compétition officielle pour 19 cinéastes en tout sélectionnés, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. En hors compétition, 0 réalisatrice. En Cannes première, 0 réalisatrice. En Un certain regard, 33% de réalisatrices, c'est quand même pas la parité. Et Un certain regard, comme tu le disais, c'est un peu plus, on a un peu des, si ce n'est des premiers films, mais en tout cas des films qui sont, disons, produits avec moins d'argent aussi en général, avec un regard qu'on pourrait qualifier de plus artistique, dans le sens où artistique c'est aussi fait avec moins d'argent, parce qu'une des caractéristiques des femmes dans le cinéma c'est qu'elles produisent des films certes, mais des films qui sont avec moins d'argent, et elles sont plus nombreuses à produire des premiers films, mais par contre elles n'ont plus l'argent ensuite de produire des deuxièmes, etc. Donc ça se retrouve évidemment dans la sélection et c'est quand même à déplorer. On a 40% de réalisatrices dans les séances spéciales, je vois, voilà. Voilà, j'ai égrené un peu des chiffres, je suis désolée, mais il me semblait que c'était un bon... des chiffres à rappeler qui, moi, me déçoivent énormément. Et sinon, moi, sur les films que j'ai remarqués, j'ai quand même très hâte du Christophe Honoré, parce que je suis un cliché de moi-même. Quoi d'autre? Paolo Sorrentino, j'ai envie de voir ce qu'il a à dire. L'amour ouf aussi. Écoutez, une comédie musicale de Gilles Lelouch. Oui, moi aussi, ça m'étonne qu'ils soient en compétition officielle. Puis, comédie musicale. Ah, et la comédie musicale de Jacques Audiard avec genre.
Selena Gomez.
Enfin, ça fait pas sens dans ma tête, mais écoutez, ça me donne envie de voir. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, Selena Gomez ne colle pas dans Limoges, mais. Mais voilà, moi je m'attendais peut-être à une sélection un peu plus clinquante aussi, avec peut-être plus des plus gros noms, parce que malgré Cronenberg, Coppola, etc.,
Sorrentino.
Oui, il y a Sorrentino, mais il n'y a pas non plus. C'est pas, enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est l'année où ils aient mis le plus leur copain, ce qui en même temps est pas si mal que ça. Non, t'es pas d'accord.
Ouais, pour le coup, moi je suis. Alors je profite que j'y vais pas à Cannes pour du coup cracher dessus.
D'ailleurs, Cannes, rendez
les actes à la
vraiment,
t'as
payé
en plus. Non, non, j'étais remboursé quand même. Enfin bref, je trouve honnêtement que la sélection cette année, c'est un peu la sélection des vieux fourneaux cannois. C'est-à-dire qu'on va évidemment avoir Coppola qui arrive, mais en fait, c'est tellement été attendu que ça en devient barbant. C'est-à-dire que.
Il a toujours pas trouvé de distributeur aux États-Unis.
Oui, mais ça va être un sketch ce film. Je sens le nanar à 100 000% où le truc il est complètement démurge. Ah, mais il peut avoir Adam Driver. Enfin, je veux dire, François Civil ne joue que dans des daubes, tu vois. Donc Adam Driver a le droit aussi de se planter parfois. Non, en fait, moi ce qui me fait peur, alors en vrai, j'en ai rien vu. Si ça se trouve, ça va être excellent ce film-là. Mais en fait, ce que j'ai peur, c'est que c'est vraiment une retrouvaille des vieux cannois qui reviennent à nouveau. Alors certes, il n'y a pas l'éternel Ousloune qui n'est pas présent cette année puisqu'il n'a pas fait une double cette année. Mais moi, j'ai été vraiment déçu. C'est vrai que comme tu dis, Juliette, ça manque de clinquant cette année et ça manque pas forcément de clinquant au niveau des noms, ça manque de clinquant au niveau des nouveautés. C'est-à-dire que soit c'est des gens qui sont vraiment plutôt inconnus ou alors c'est des projets qu'on n'attend pas forcément. Enfin, je veux dire, le Audiard, bon, ça peut être intéressant, mais il est là parce que Audiard, il n'est pas là, je pense, par la qualité forcément du film... qui moi me botte pas plus. C'est pour ça que je suis assez mi-figue mi-raisin. Je la trouve qu'elle manque de
film.
Tu m'as fait exprès. Non, tu m'as fait exprès. Donc moi je la trouve vraiment, elle manque de clinquant et elle fait une sélection cannoise hyper classique et surtout hyper vieillotte en fait.
Tu dis ça parce que t'as les nerfs, parce que oui. Tu vas pas venir. Mais allez, on enfonce tout Arthur au bout.
Non mais en vrai, je te rejoins un petit peu, je rejoins ce qui a été dit sur le manque de présence de femmes. Enfin, c'est quand même assez dingue qu'on soit toujours pas, même dans un certain regard, qu'on n'atteigne pas ne serait-ce que les 40%, quoi, ce qui est toujours pas la parité, mais ce qui serait déjà pas mal. Sinon, vous avez pas mentionné, il y a un film de Paul Schrader qui a quand même écrit le scénario de Taxi Driver, donc c'est pas rien. Voilà. Ouais. Donc très hâte. Voilà. Et non, sinon je rejoins.
Moi, je me suis rendu compte juste, on a parlé du manque de réalisatrices, mais j'ai pas assez souligné les films de réalisatrices que j'avais envie de voir, enfin d'actrices en l'occurrence, parce que du coup, Inanna t'en a parlé, mais le film de Laetitia Doche, j'en ai pas entendu parler, mais ça s'appelle Le procès du chien, et l'affiche, c'est juste Laetitia Doche avec. Doche, pas Deutsch, c'est pas Laurent Deutsch, c'est vraiment deux personnes différentes. Mais bref, c'est juste Laetitia Doche avec genre un chien devant elle, et depuis que j'ai vu La bataille de Solferino, j'adore Laetitia Doche, et du coup, ça me donne très très envie de voir ce film, plus aussi celui de Noémie Merlan. J'avais pas vu Miyubita mon amour, mais l'affiche a l'air d'être super. C'est scénarisé par, ou co-scénarisé en tout cas par Céline Sciamma, il me semble. La photo a l'air d'être super. Et je sais plus dans quelle compétition ils sont tous les deux. Pas en compétition officielle, c'est sûr.
Bah, un certain regard.
En compétition, je crois non, que Laetitia Doche, elle est en un certain regard, mais il me semble
oui,
que.
Merlan, elle est
ouais, ça doit être ça, un truc comme ça. Non, pas première, parce que première, il n'y en a pas. Ou séance de minuit, peut-être. Bon, bref. Ils sont dans. Pas la compétition officielle. C'est quoi ? C'est la compétition officielle et pas la sélection officielle ?
Pas la sélection. Pas la...
Ils sont oui, pas dans la compétition.
Oui, c'est ça. Ils sont pas dans la compétition officielle, mais dans la sélection officielle. Que de mots compliqués. Mais bref, voilà, c'était juste pour mettre en lumière ces deux films parce que quand même, on dit qu'il y a pas assez de réalisatrices et les pauvres réalisatrices qui sont là, on les met pas en avant. C'est quand même pas très ouf. Voilà.
Et il y a deux françaises qui sont quand même dans la sélection officielle, dont une ancienne de Sciences Po apparemment, qui fait un film d'horreur corporelle, Coralie Farja.
Coralie Farja.
Avec The Substance.
C'est un revenge porn, non ? Un truc comme ça ?
Je crois qu'il y a de ça, ouais.
Je crois qu'elle avait déjà fait un truc comme ça, ou enfin, je sais pas, ouais, j'en ai entendu
parler. Oui, un autre film qui s'appelait Revenge. Moi, je suis quand même hyper... Oula, non, j'ai pas du tout parlé dans le micro.
Moi, je suis quand même très curieuse de découvrir le film de Coppola. Alors, je sais qu'on en a tellement parlé, mais je trouve que... je sens que ce film va être tellement un flop que ça va faire date dans l'histoire du cinéma et qu'on va se retrouver dans 6 mois, genre, à donner 1 euro sur des cagnottes litchi pour sauver Francis, parce que Francis a investi toute sa thune dans son projet, donc...
Je pense qu'il lui en reste.
Moi, le côté... Franchement, il a mis 100 millions.
120 millions.
Moi, déjà, je savais même pas qu'il était si riche que ça. Enfin, en mode... Oui, mais enfin, quand même, 100 millions, les gars.
Sophia rend l'argent.
C'est Nicolas Cage qui va lui payer tout. Voilà.
Donc, oui, je suis quand même un peu curieuse de ce que ça va donner. Et je pense que c'est un peu un syndrome intéressant des Scorsese, Coppola et tout, qui sont... Les gars sont prêts à tout. Y compris à être genre à vivre dans un bungalow pour le reste de leur vie pour que leur dernier film aille à Cannes. Enfin, je trouve ça quand même assez marrant. Et non, mais sinon, bah, on peut déplorer évidemment le manque de parité.
Après, on peut accorder à Thierry Frémaux le fait que, contrairement à beaucoup d'autres, lui, il essaye même pas de faire du pinkwashing. Hein. Le mec n'en a rien à battre. Il est en mode, moi, je reste fidèle à ma... Je reste fidèle à ma ligne, qui est d'être un gros misogyne, donc au moins Thierry a l'honnêteté de ses opinions, quoi. Voilà, bon, on les déplore, mais il est honnête. Bon.
Voilà. Il l'assume.
Voilà, super. Il l'assume.
Et puis, on attend aussi avec impatience les sélections de la semaine de la critique lundi et de la quinzaine des réals, enfin des cinéastes, ouais, mardi, qui en général sont beaucoup plus paritaires. Bah, déjà parce que la semaine de la critique, souvent les premiers films et les deuxièmes films sont. Il y en a beaucoup qui sont faits par des femmes, et puis c'est Ava Cahen, je crois, qui est la directrice générale, donc en général, il y a quand même plus de femmes.
Et donc, sans plus tarder, nous allons passer au film de la semaine. Donc, au programme, nous avons Rosalie de Stéphanie Giusto.
Di Giusto, je crois.
Rosalie de Stéphanie Di Giusto. Ensuite, nous parlerons du Mal n'existait pas, le dernier... n'existe pas, le dernier film de Hamaguchi, et nous finirons par... Madame Hoffman, le dernier documentaire de Sébastien Lifshitz. Et c'est Juliette qui va commencer par nous présenter Rosalie.
Et oui, tout à fait. Donc moi, Rosalie, c'est un film pour lequel j'avais hâte, mais en fait, je suis censée résumer. Donc je vais plutôt le résumer avant de donner mon avis. Super, merci Juliette. Donc en fait, Rosalie, on va suivre l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Rosalie. Incroyable. C'est une jeune femme un peu particulière. On est dans la France de 1870. Et en fait, Rosalie est une jeune femme particulière parce que c'est une femme à barbe et son père va réussir à la marier avec un Benoît Magimel qui a besoin d'argent plus vieux qu'elle en la maquillant, enfin, donc en la promettant en mariage, évidemment. Benoît Magimel, enfin, évidemment. Non, mais Benoît Magimel ne sait pas qu'elle a une barbe, mais il va le découvrir par la suite et ça va créer ce que je pourrais appeler des conflits dans le couple, je pense, et je sais pas qui l'a vu ici.
Bah du coup, t'as commencé en disant que tu l'attendais. Moi aussi, je l'attendais pas mal. Et j'étais un petit peu déçue. J'avoue que je l'ai vu, quand je l'ai vu sur le coup, je me suis dit, ah, c'est vraiment pas mal et tout. Y a pas mal... Enfin, on ressent quand même un peu des émotions et tout. Mais avec le recul, je l'ai trouvé pas terrible. Et surtout, je pense que le cœur de ce film, c'est qu'il a un problème de rythme. Il commence assez bien, c'est assez lent et ça permet vraiment de cerner les personnages, de camper une forme de tension entre les deux. On ne sait pas trop ce qui va se passer, est-ce qu'il va l'accepter. Déjà, quand est-ce qu'il va se rendre compte qu'elle a une barbe? Est-ce qu'il va accepter ça? Qu'est-ce qui va se passer? Donc ça, je trouve que ça commençait assez bien. Et après, tout le cœur du film, je trouve qu'on perd un petit peu le récit, on ne sait pas trop vers quoi on va. Et la fin arrive de manière très brutale et d'un coup... Je trouve qu'on a complètement perdu le personnage et on voilà, on sait pas pourquoi ça se termine comme ça et c'est assez catastrophique. Je sais pas si vous me rejoignez.
Moi j'ai une hypothèse sur pourquoi ça se termine comme ça, c'est que juste c'est un film sexiste, mais bon. c'est pas parce que c'est une femme qui a écrit que c'est pas.
Pas.
Enfin pour moi, enfin c'est vrai que moi je te, du coup désolée j'ai pris la parole, mais je te rejoins complètement Pauline. Enfin moi j'avais hâte et surtout je voulais que ce soit, enfin je sais pas. À mon avis il y a quand même vraiment un truc à faire sur le féminisme et les poils et les femmes à barbe. Enfin je sais pas, moi c'est un bon sujet de prédilection, mais non, mais il y avait un truc un peu pop et fun à faire, je sais pas.
Pop, une esthétique pop et elle n'est pas présente.
Non mais un truc un peu, fun. Là, le film est déjà, bon, bah, tout sauf fun, d'accord, ok. Mais, enfin, en fait, je veux pas vous spoiler la fin, mais moi, c'est la fin qui me fait dire que ce film est d'une lourdeur, enfin, absolue. Et du coup, là, enfin, c'est vrai que sans cette fin, je pense que je reverrai le film à la hausse, mais pendant tout le film, j'ai essayé de savoir un peu le propos qu'elle avait, parce que pour moi, elle reste vachement en surface sur... C'est dur d'être une femme et d'avoir une barbe, et effectivement, enfin, tu vois, t'as tous les codes sociaux qui viennent sur toi, enfin, c'est super compliqué. Tout, mais niveau féminisme, il y avait quand même vraiment plus à dire, et je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à en tirer. Et cette fin, enfin, pour moi, ça en fait juste un film qui n'a rien à dire, qui est mélodramatique, et du coup, embourbé. Enfin, je ne vois pas comment interpréter cette fin autrement que par du sexisme, et j'étais vraiment déçue. Mais je crois que Margot, tu fais une moue, donc peut-être que tu as une autre manière d'interpréter.
Honnêtement, franchement, je pense que c'est pas sexiste, c'est juste médiocre. Genre, si je peux vous partager.
Non, il y a peut-être pas de mauvaise intention, non, je veux dire, si mais du coup, du sexisme intériorisé, enfin, je sais pas.
Je sais pas, mais si je peux vous partager une petite anecdote, il fut un temps quand j'étais au collège où j'écrivais des histoires sur Wattpad. Bien sûr, il faut savoir que j'ai écrit une nouvelle qui se terminait exactement pareil. Sauf que moi, j'avais 13 ans et elle en a pas 13, Stéphanie, donc voilà. Mais vraiment, hein, la scène de fin, bon, on va pas le spoiler à nos auditeurs, mais bon, il y a de l'eau.
C'est
ça tourbillonne. Je vous jure, les gars, que j'ai écrit un truc en mode une phrase en mode. Elle finit sa vie là où tout avait commencé, dans des tourbillonnements d'eau. Et j'étais en mode, mais Stéphanie m'a piqué mon idée. Pourtant, c'était tellement original. Enfin, bref. Non, mais pour en revenir au film plus sérieusement, c'est vraiment. Il y a tout, mais les clichés, mais archi éculés du film d'époque. Genre, évidemment, c'est tout beige marronâtre. Il y a des espèces de plans avec. Dans la forêt de Brocéliande, où t'es en mode, mais est-ce que am I watching un biopic sur Mélusine ou c'est comment? Genre, vraiment, c'est hyper spécial. Et puis moi, je trouve surtout ce qui est impardonnable dans ce film, c'est la musique. La musique, les gars, mais elle m'a mais saoulée. Genre, on aurait dit, c'était une espèce de musique, genre piano, sortez les violons, mais littéralement, genre sortez les violons, quoi. Et moi, d'ailleurs, je soupçonne la musique d'avoir été composée par une intelligence artificielle, parce que c'était tellement cliché que je pouvais pas croire qu'il y ait vraiment quelqu'un qui l'ait composé, quoi. Non, mais bon, effectivement, c'est un film qui avait des intentions plutôt louables, qui avait un sujet plutôt intéressant. Effectivement, j'aime bien Nadia, je trouve qu'elle est très bien dans ce rôle. Enfin, elle joue très bien.
La barbe lui va super bien.
La barbe lui va très bien, elle joue très bien les personnages d'époque.
Je trouve que la barbe lui va super bien.
Après, est-ce que la barbe lui irait pas bien parce que Nadia est comme une actrice au physique très très avantageux. Bon, après, comme toutes les actrices du cinéma français, mais c'est vrai que j'ai pas vu. Je me demandais un peu ce que j'aurais ressenti si on avait mis une actrice avec un physique moins conventionnellement.
Oui, complètement.
Attractif, quoi. Notamment parce qu'il y a des scènes où, apparemment, Nadia a expliqué dans une interview qu'ils ont posé les poils de la barbe, genre un par un, et que c'était hyper long, et que c'était pas un postiche, mais vraiment genre poil par poil, apparemment, et tout. Bon, il y a quand même des scènes où tu sens qu'ils ont eu la flemme de bien coller les poils, du coup t'as genre une pilosité, genre la meuf a quand même une barbe, mais par contre elle a des aisselles de petite fille, genre t'es en mode ok, c'est... Perso j'ai remarqué le détail, voilà, je suis... voilà. Peut-être que je suis une femme à barbe aussi, en fait, je sais pas. Je sais pas où je vais. Je sais pas pourquoi je
te dévoile beaucoup trop, ça va pas vraiment. C'est...
On va chercher ton
non mais j'ai ça s'appelait je sais non.
Non,
on était pas loin, on était pas loin.
Non mais j'ai supprimé mon compte, hein, les gars, vous me prenez pour qui? Non mais bon, bref, pour terminer pour terminer cet avis sur Rosalie, enfin c'est juste hyper c'est hyper passable, médiocre et mineur. C'est un film qu'on va tous très vite oublier et qui a totalement capable de vraiment de parti pris, quoi. C'est vraiment juste un film hyper convenu et convenable, mais c'est tout, quoi.
Bah, qui a pas de parti pris et qui a pas de récit non plus, c'est à dire que tout le cœur du film, bah, on sait pas où elle nous emmène. C'est une succession de scènes et qui nous mène pas vers la fin, parce que la fin vraiment arrive comme un cheveu sur la soupe, quoi. C'est
comme un poil
sur la soupe.
Non mais je suis d'accord avec vous.
J'ai trop envie de faire des blagues sur les bras. Ce film m'a tellement rien donné que je me suis entertain moi-même en regardant le film. Genre, je faisais des blagues dans ma tête, je trouve ça trop drôle.
T'as des exemples?
Bah non, mais je sais pas. Juste moi, j'ai juste ri, vraiment beaucoup ri à cause des violons, quoi. Vraiment, sincèrement.
Ouais, j'étais en projet presse, je pouvais pas rire, tu vois. Mais j'ai entendu qu'il était 10h du matin et tout, et j'étais là.
Ah, j'avais envie.
C'est lourd. C'est lourd. Mais pendant qu'on parlait, les images du film me reviennent en tête. J'aimerais souligner le fait qu'il y a Benjamin Biolay dedans, qui joue très pas
et
bien.
Anna
et Biolay, sa fille.
Qui n'est pas sa fille dans le film.
C'est pas sa fille dans le film. Mais j'étais comme, cette personne, c'est genre ressemble trop à Benjamin Biolay. Je ne la connaissais pas. Et sa fille joue très mal.
Mais ils jouent tous les deux très mal.
Voilà, c'est ça.
Mais
je pense qu'on peut souligner.
Rôle, enfin, ça
c'est ça. On
pas
peut souligner le fait qu'il joue très mal. Enfin. C'est vraiment un truc
de
malade mental.
Il a une diction de gros parisien du Marais. Le mec est censé jouer un propriétaire breton du 19e siècle. T'es en mode vraiment Benjamin. T'as l'impression qu'il va faire une petite chanson à la guitare à tout moment. Genre, c'est vraiment, on n'y croit pas du tout, quoi.
Et dans l'écriture des personnages, moi, je me souviens pendant que c'est vraiment des souvenirs qui me reviennent. Mais quand j'ai regardé le film, je me souviens m'être dit, mais le personnage de Benoît Magimel. Mais alors au début, en fait, il est méchant et du coup, il accepte pas ça. Mais ensuite, il va devenir un peu gentil. Et puis, on essaie vraiment de rattraper, moi c'est ça aussi,
bah,
je pense.
En vrai, je trouve pas là-dessus, je trouve qu'il est assez complexe dès le départ. Enfin bon, après on voit la première scène où on le voit, on sait que c'est pas un type hyper sympa, quoi.
Non.
Mais je trouve que par rapport à elle, il est quand même dans une forme d'ambiguïté tout de suite. Après, elle est pas développée, quoi.
Mais alors qu'elle, elle est
juste
trop courageuse,
elle est
juste...
Ouais,
elle est
ça, elle est courageuse.
Empowerment.
Oui, mais à la limite... Oui, non, mais bien sûr, mais ça c'est pas abordé.
Bon,
mais
ça,
bien sûr.
Voilà,
mais...
bien évidemment. On est dans le cinéma français, quoi.
Mais je sais pas, à la limite, une figure féminine qui soit que courageuse, bon déjà c'est nul, mais pff, un personnage masculin que t'essaies de rester à la fin et où du coup tu te dis regardez comme il est mignon, en fait il n'était pas méchant et les hommes ils sont gentils aussi, moi ça m'a tellement saoulée. Enfin, je sais pas, moi j'ai vraiment ressenti ça pendant le film et j'étais là.
Je sais pas, parce qu'en même temps, elle est tellement courageuse, elle est tellement incroyable que forcément t'es obligée d'être.
Bah, je sais pas, parce qu'au début, non, tu vois, enfin. Et puis il oscille tout le temps, enfin, je trouve qu'on le comprend pas dans ses changements de, d'avis, d'humeur et tout, enfin, c'est juste mal écrit aussi, voilà.
C'est... Oui, c'est mal écrit, mais moi je trouve qu'on sent quand même que le propos, c'est de dire, ah, mais en fait, lui, au fond, s'il y avait pas la pression de la société et de ses pairs, en fait, il serait hyper heureux. Mais en fait,
oui, voilà.
Ses potes, ils sont en mode, ah, c'est une sorcière. Et du coup, en fait, d'un coup, il est en mode, ah non, en fait, elle a des poils. Genre,
mode, oui, voilà.
Bon, voilà quoi.
Mais en quoi ça, c'est psychologiquement viable? Et enfin, c'est intéressant.
Bah, je sais pas, est-ce que c'est, un... bah, c'est vaguement vrai, mais je veux dire, là, c'est, ils y vont avec des gros sabots, quoi. Mais après, oui, la pression des pères, j'imagine que c'est recevable.
Oui, bah, je sais pas, j'avais l'impression que c'était un espèce de not all men moi, qui m'a vraiment saoulée, quoi. Non, mais vraiment, vous avez pas ressenti ça?
Non, vraiment, moi, je l'ai pas ressenti, c'est nul, ça, genre. Perso, mais après, bon, si on peut y ajouter une autre lecture, c'est plus intéressant que de dire c'est nul, tu vois. Donc, je trouve mon analyse intéressante, par ailleurs.
Bah voilà, moi j'ai pas envie de dire des trucs positifs en fait.
En fait, j'ai pas envie de le racheter, mais je trouve que lui il incarne quand même un peu ce regard de se dire bah en fait, est-ce que les gens l'acceptent vraiment ou sont en train de se moquer d'elle ? Et il incarne aussi ce fait de dire bah j'ai peut-être envie de la protéger et pas qu'on se moque d'elle. Même si après, le fait qu'on se moque d'elle, c'est aussi se moquer de lui par extension, donc ça. Voilà, mais.
Ça ouais, reste pas très voilà, féministe. Tu vois, il pense toujours qu'à lui, puis même ouais. Le truc de la protéger, c'est un peu un ressort masculin toxique. Je vais la protéger parce que c'est moi et tout, alors que c'est elle qui vole à sa rescousse et qui,
après,
le...
C'est un sale type. Enfin,
genre... qui le sauve de la ruine et qui prend tout en main. En quoi lui il la protège vraiment bon.
Oui, oui, c'est pas un personnage recommandable quoi.
Non, bon, je pense qu'on peut s'arrêter ouais. Là. Hein.
Eh bien, après cet avis plus que mitigé, nous allons passer à un film qui, j'espère, va relever le niveau de la semaine. Et c'est donc Le Mal n'existe pas, qu'Enora va nous présenter.
Donc, Le Mal n'existe pas est un film de Ryusuke Hamaguchi, un réalisateur japonais, qui était d'abord une commande d'une compositrice qui s'appelle Eiko Ishibashi, qui a donc composé la musique et il devait faire un film pour elle et sa musique. Ce qu'il a fait, sauf que en filmant, il s'est rendu compte et ça l'a inspiré d'un scénario donc, qui est devenu Le Mal n'existe pas. Donc il y a deux films différents qui existent, voilà, mais qui sont très différents même s'il y a à peu près les mêmes bases. Et donc celui-ci, Le Mal n'existe pas, raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Takumi qui élève seule sa fille Anna dans un petit village assez isolé, mais pas trop loin de Tokyo. Et un jour, un projet de glamping, donc du camping de luxe, va vouloir être implémenté dans leur village et ça va être toute cette histoire d'opposition entre les villageois et les citadins de Tokyo qui veulent mettre en place ce projet qui va être raconté.
Bah, du coup, moi j'ai beaucoup aimé ce film, franchement j'ai trouvé très beau la musique. Du coup, je savais pas que c'était un film de commande au départ, mais c'est vrai que la musique est vraiment, enfin, joue un rôle hyper important, elle est très belle et elle accompagne très très bien l'histoire. Je trouve que c'est un film qui est intéressant dans son propos et dans la manière dont il l'amène et dont il nous fait ressentir les choses, notamment par plein de petites touches qui vont mener à la scène finale sans que ce soit, comme dans certains films, on nous dit « bon bah voilà, ça c'est un élément important qu'on retrouvera à la fin ». Là, c'est amené, je trouve, avec beaucoup de délicatesse qui nous amène à une scène finale, pour le coup, très réussie, qui se fait sans dialogue et qui est... super fort. Pourquoi vous regardez comme ça là?
Alors moi j'ai rien regardé.
C'est Juliette qui fait des mouvements.
J'étais...
Bah si.
C'est Juliette.
Ah si, en plus elle est très belle quoi. Non mais sinon ouais, à tous les niveaux, je trouve que ce qui caractérise le film, c'est sa retenue et c'est super beau d'avoir un film comme ça. Par rapport à Rosalie qui est là, on mettait des tonnes et sortait les violons. Là on a vraiment pas de violon pour le coup et c'est ouais, quelque chose de très joli, très, très modeste, très en retenue. Je sais pas, vous n'êtes pas d'accord.
J'aime
pas. Oui, moi je suis le mauvais côté du coup de la table. En fait, je suis sorti de ce film-là en n'ayant pas grand-chose à dire. Alors j'ignorais que c'était un film de commande quand je suis allé le voir. Bah, non, mais tu.
Un tour de Juliette. Oh là là.
C'est assassin de faire ça. Hein, et ensuite, quand je l'ai vu, donc c'est-à-dire que tu me l'as dit après. Tu me l'as dit après, mais c'est assassin de faire ça. Bref, je n'ai pas grand-chose à en dire de ce film-là. Je ne savais pas avant. Du coup, que Juliette m'en parle après la séance, que c'était un film de commande et qu'il avait il a constitué le film, en fait, au final, enfin, la version qu'on a au cinéma, en fait, petit à petit, au moment du tournage. Malheureusement, je trouve que ça se voit, et ça se voit beaucoup. Un truc qui est hyper bizarre sur la photo, moi, je trouve qu'elle fait très numérique, trop numérique, notamment, il y a... Quand vous avez des travelling, ça se voit beaucoup, au fait, puisque l'image semble un peu sauter, notamment sur les éléments qui passent très très vite devant la caméra. Il y a des troncs d'arbres à un moment qui sautent. Enfin, il y a un effet très bizarre qui renforce un aspect très numérique de l'image et qui, du coup, ne va pas du tout avec la sensorialité qu'on aurait dû attendre de tout simplement de la forêt, de la nature, vu que c'est un film qui se concentre sur le lien qu'entretient l'homme et la nature. Et comme, du coup, la nature n'a pas d'aspect du tout viscéral, ce qui aurait beaucoup mieux marché, je pense, avec soit une caméra, pas forcément meilleure qualité, mais en fait avec une meilleure utilisation de la caméra, avec des plans peut-être plus fixes, ou alors avec du pellicule, ou alors du simili pellicule, en fait, un peu imiter un grain. Le fait qu'il n'y en ait pas du tout, que ça fasse une image très numérique, ça fait quelque chose de très froid et du coup très technologique et très éloigné de la nature. Et du coup, j'ai pas ressenti ce lien qu'il pouvait y avoir entre ceux qui vivaient à la nature et la nature elle-même. Et du coup, j'ai développé finalement un message qui est presque contradictoire, comme j'ai l'impression que c'est ruraux. N'ont aucun lien avec la nature mais qui veulent la garder jalousement, en fait. Pour moi, c'est un message où ils diraient, en fait, les ruraux, ils aiment la nature, mais la nature, elle, ils la comprennent pas vraiment, ils veulent la garder jalousement. Et je me doute que c'est pas le message, en fait, que veut faire passer le réalisateur, mais je pense qu'il y a un manqué dans la réalisation qui fait que, ce lien-là n'existant pas, on a l'impression que les ruraux gardent ce secret, enfin, gardent la nature pour eux, juste parce qu'ils sont des connards et que ils veulent pas le partager. Et c'est encore plus bizarre parce qu'ils cherchent, et ça c'était plutôt un truc intéressant, à humaniser les citadins, à dire que c'est pas tous des gros connards capitalistes, que le gros connard capitaliste c'est l'entreprise, le chef, le patron, mais que les petites mains qui sont au service de ça, en fait, la seule chose qu'ils aimeraient, c'est de s'en émanciper. Et du coup, ça paraît encore, la fin, je vais pas dire ce qui se passe dans le détail à la fin, mais la fin paraît encore plus méchante, je trouve, vis-à-vis de ces personnages-là, quand on a ce manque de lien qui existe entre les ruraux et la nature. Et moi, c'est un film qui m'a laissé vraiment froid, alors que pourtant, il y a plein de bonnes petites idées qui se baladent à droite, à gauche. Mais je suis désolé, cette manière de filmer, elle dessert complètement le film et elle manque complètement l'aspect viscéral qu'il aurait pu avoir. Et je trouve que la nature, je l'ai vraiment vu filmer, c'est un sous-Terrence Malick, avec 2-3 plans sur des serres pour faire plaisir, 3-4 plans sur la cime des arbres pour raccrocher des plans qui ont été vus et revus. Je trouve qu'il manquait une étincelle pour vraiment nous faire ressentir la nature.
Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec toi sur le côté nature. Justement, je trouve que c'est ce qu'on ressent le plus, ce côté lien avec la nature, et je pense que ça peut parfois être même un peu trop contemplatif pour certains. Enfin, je crois que l'ouverture du film, c'est 5 minutes de plan sur la canopée dans la forêt. On voit Takumi avec un de ses amis, je crois que c'est celui qui tient le restaurant de ramen, justement, qui récolte de la neige pour en faire de l'eau. Non, ou de l'eau.
Non, de l'eau.
Ouais,
à
de
la
l'eau
source,
directement.
Ouais.
Enfin, je l'ai vu il y a longtemps, mais bref. Et justement, je trouve qu'on voit vraiment ce lien avec la nature. Et même, Takumi, le personnage principal, élève seul sa fille. Et il lui montre dans la nature les différents arbres, etc. Et je trouve que c'est assez sensible et subtil comme manière d'approcher tout ça. Et justement, je trouve qu'on voit vraiment ce lien. Et les personnages sont assez taiseux, enfin les personnages ruraux, enfin surtout Takumi, en fait, et il ne montre pas toujours tout ce qu'il a à l'intérieur de lui, tout ce lien avec la nature qu'il a, et c'est juste quelque chose qui est montré dans le film, en fait. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Certes, il y a une opposition envers les citadins. Au début, on peut se dire que c'est super cliché quand on les voit lors de la réunion de quartier où ils exposent leurs projets. D'ailleurs, c'est le deuxième film japonais que je vois dans l'année qui parle de glamping. Je ne savais pas du tout ce que c'était avant. Mais je sais pas, c'est quelque chose de peut-être de un peu fancy au Japon en ce moment.
Ça existe en France, mais on dit glamping. Et moi, je pensais que c'était dû à glander. Parce que ça semblait faire beaucoup plus de sens. C'est vraiment un camping où tu glandes, parce que t'as pas à monter ta tente et t'as un vrai lit. Mais voilà, j'étais très déçue glam. Que ça vienne de glamour. Pour le coup, bon, quand même. Voilà, mais désolée, je te laisse reprendre.
Non, mais j'ai bien aimé le fait que cette opposition, du coup, on voit les citadins super clichés qui présentent un projet dont ils ne savent même pas vraiment les tenants et les aboutissants. Qui sont hyper condescendants envers les ruraux, etc.
On dirait des étudiants en école de commerce.
Oui, vraiment, ouais, vraiment. Et on les voit changer au fur et à mesure. Ouais. J'ai trouvé ça intéressant de les voir dans leur environnement plus naturel, entre guillemets, dans leur entreprise, et de voir que finalement, ils avaient des états d'âme et qu'ils n'étaient pas d'accord avec tout, et qu'ils se rendaient compte, etc. Et je trouvais que de ce cynisme, on voit que... Enfin, ce cynisme, ces manigances, elles existent de toutes les parts, enfin, d'où le titre finalement. Voilà, c'est la réelle morale du film qui est dans la fin d'ailleurs. Et j'ai trouvé ça justement subtil, ce petit retournement de situation et de voir que le mal est partout et du coup qu'il n'existe pas.
Non, mais Nora, tu le défends très bien. Non, moi je suis assez d'accord avec Arthur. En fait, c'est un film qui est assez, je dirais, enfin, un peu perturbant à regarder parce que quand j'en suis sortie, je savais vraiment pas quoi en penser. Et en fait, je pense que ce qui m'a manqué dans ce film, c'est que il m'a donné des bribes de choses qui m'ont beaucoup intéressée. Et aucune de ces pistes, on va dire, n'a été amenée quelque part, en fait. C'est-à-dire, j'ai l'impression d'avoir vu des choses et qui ne se sont pas concrétisées, qui n'ont rien donné. Notamment, moi, j'étais très intéressée par le début de on va dire de dark narrative qu'il y a entre cette dans cette rencontre, enfin cette je sais pas, cette amitié naissante, je sais pas si on peut dire ça, entre ce citadin qui porte des vestes techniques Patagonia orange fluo qui est assez bien trouvé en termes de costume, et donc cet homme de la nature qui est taiseux et mystérieux. Mais en fait, cette relation, elle va nulle part. En fait, c'est une espèce de bribe, quoi. Enfin, elle va vraiment nulle part. Et moi, la fin m'a laissé totalement. J'ai absolument pas compris pourquoi. Enfin, je sais pas vraiment pourquoi. Mais j'aimerais bien. Enfin, et en y repensant, je vois toujours pas pourquoi ça s'est fini comme ça. Parce que, en fait, moi non plus, je savais pas du tout. Enfin, vous venez de m'apprendre que c'était une commande. Et j'ai l'impression qu'en fait.
Enfin, c'est l'autre film qu'il a fait qui est devenu la commande. Oui. Et c'est en faisant l'autre. Oui.
Et du coup, je trouve que en fait, en repensant à ce film a posteriori, j'ai l'impression que Hamaguchi est arrivé avec sa caméra et tout son talent qui est indéniable sur ce lieu de tournage et qu'il a fait un film comme ça. Alors, il y a des pistes intéressantes parce que je pense que c'est un réalisateur très talentueux qui a beaucoup de talent finalement. Mais effectivement, je trouve que c'est très peu abouti et c'est presque comme voir un court métrage un peu. Enfin, il y a un truc super inabouti où tu peux même pas vraiment le critiquer parce qu'il y a tellement de pistes qui auraient pu être explorées et qui auraient pu être intéressantes que t'as pas envie d'être négatif, mais en même temps il m'a rien donné, quoi. En fait, j'ai l'impression qu'il a été très chiche et qu'il a rien donné au spectateur, quoi. Voilà.
Bah moi je suis plutôt d'accord avec toi, du coup en allant le voir je savais que c'était un film, en fait pas forcément de commande, mais en gros, enfin moi de ce que j'ai compris, mais Enora détrompe-moi parce que j'ai lu ce truc il y a longtemps, mais en gros j'ai l'impression qu'ils ont d'abord fait le film où du coup c'était pour un ciné-concert. Et à partir des prises qu'ils avaient prises pour ce film, ils en ont, enfin Ryuzuke, enfin pendant le montage, il s'est dit ah mais il y a un autre film à faire, et il a pris tous ses rushs et à partir des rushs il en a fait un autre film. C'est ça ou c'est alors, moi c'est ça que j'avais compris.
Alors il l'avait expliqué, je sais plus si c'est comme ça que ça s'est passé ou s'il a, je crois qu'il est même retourné sur les lieux de tournage.
Ok, pour retourner quelques scènes.
Et il a commandé, il a appelé des acteurs, je crois qu'il y avait pas d'acteurs si dans le film de commande. Enfin, c'est un peu, c'est assez. C'est
ok, moi je pensais que les acteurs c'était des locaux déjà. Bon, je sais plus. Bon. Moi j'avoue que du coup j'ai vachement senti ça. Moi j'attendais beaucoup ce film parce que déjà j'adore Ryuzuka Maguchi, que ce soit Contes du hasard et autres fantaisies qui étaient vraiment très bien, ou même Drive My Car évidemment, que j'avais beaucoup aimé. Il a en fait un talent que je trouve notamment de l'écriture et du rythme. Bah que là, du coup, je retrouve pas beaucoup parce que, bah, étant donné la nature étrange de ce film-là, en termes d'écriture, on sent qu'il a pas pu beaucoup travailler. Les rares dialogues qu'il y a sont effectivement très bien écrits, très drôles. Moi, je retiens notamment cette scène de conseil de quartier-là qui, je trouve, marche très bien parce que cette opposition est cliché, évidemment, mais parce que ça prouve aussi une certaine réalité. Et moi, je la trouve drôle. Du coup, j'ai envie de creuser ça et après, bah, il y a plus grand-chose. Parce que moi, ça me dérange même pas nécessairement que les... si les citadins auraient pu rester méchants, ça ne m'aurait pas dérangé. Que, là, ça me va aussi l'axe où ils vont, mais je veux dire, j'aime bien cette espèce de dichotomie forte et où tu sens un film où tu sens où il a des revendications. Et là, du coup, je trouve que vers la fin, son propos s'estompe un peu en essayant justement de nuancer ses personnages. Et moi, en fait, un des trucs qui m'a vraiment, je sais pas, où je me suis fait la réflexion pendant le film, c'est que je crois que j'avais envie de voir un film qui avait développé une réflexion sur comment est-ce que la nature, ça peut être développé comme un personnage et comment on peut la filmer comme quelque chose de vivant. Or là, je trouve que c'est pas le cas. En fait, au début, je me suis dit, pour moi, la première séquence dont tu parlais, Nora, marche bien et est dans ce truc-là. Mais ensuite, en fait, j'ai l'impression que, peut-être aussi parce que tout simplement il est citadin aussi, mais qu'il n'arrive pas à voir presque l'agentivité de la nature et à la montrer comme quelque chose. Oui, un personnage en fait. Ça reste quand même un cadre et il est là, il l'admire, c'est beau, mais ça reste contemplatif. Enfin, je sais pas comment. Enfin, si vous voyez la nuance. Non, mais pas immersif, on voit pas son rôle. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait encore plus à creuser là-dessus, donc moi je suis quand même. Bah ouais, je suis quand même déçue, sinon
oui,
je rejoins...
Pas comme Miyazaki dans Princess.
Voilà,
Mononoke,
exactement.
Bah, c'est-à-dire que les ruraux, le seul lien qu'ils ont avec la nature, c'est un lien d'exploitation. C'est-à-dire que, alors certes, ils en prennent soin, mais ils en prennent soin parce qu'ils veulent l'exploiter derrière. Et ça, je trouve peut-être qu'il manque, c'est-à-dire que comme finalement, ils ne font que se servir de la nature, ils ne l'admirent pas vraiment, et quand Hamaguchi, du coup, admire la nature, il l'admire comme un citadin qui s'arrêterait au bord de la route et dire waouh, beau coucher de soleil ou belle plaine étendue. Mais, et c'est frustrant parce qu'en fait, je pense que c'est pas ça du tout le message. Et je pense qu'après, c'est aussi nos perceptions qu'on peut avoir vis-à-vis de ce cinéma-là qui peut nous déranger. Mais moi, j'aurais presque aimé un film encore plus mutique qui aurait accepté de mettre ses personnages encore plus en retrait et en fait se concentrer vraiment sur voilà, ce qu'il ressent de la nature, ce qu'il a à nous dire dessus. Parce que finalement, c'est un film que j'ai trouvé, on en a parlé en tant qu'une fable écologique, moi c'est un film où honnêtement, entre les ruraux et les citadins, je ne savais pas qui avait le lien le plus sain avec la nature en fait.
C'est juste, la preuve c'est que justement on dit nature, enfin je sais pas, pour moi c'est un terme très, très citadin, justement dire ah je vais dans la nature, enfin c'est quoi la nature, il y a plein de trucs dans la nature, c'est super différent, c'est beaucoup trop vague, mais moi j'utilise parce que bah, je suis une citadine, mais il y a un truc où j'ai l'impression que quand tu connais plus ça, tu vas plus nommer, où là j'avais quand même l'impression du coup de voir ça, mais je suis désolée, je vais te laisser parler Pauline.
Ouais non t'inquiète, mais moi je suis pas d'accord avec vous justement, alors c'est pas un film qui a un propos écologique, politique, et qui est centré que là-dessus, évidemment il y a plein d'autres choses et c'est très contemplatif avant tout. Mais moi, je trouve que le lien avec la nature est vraiment montré de manière très juste, notamment à travers le personnage de la fille, qui justement s'échappe, elle-même de son côté dans la nature à plusieurs reprises dans le film, et justement marque cette opposition en disant bah voilà, j'ai un rapport plus ou moins pur avec la nature et moins d'exploitation, et ça, on voit que c'est son père qui lui a enseigné. Donc je pense qu'il y a quand même une idée de transmission, et la fille incarne vraiment ce rapport. Avec la nature que vous trouvez qui est pas dedans. Et sinon, il y a aussi dans la manière de filmer, il fait quelque chose à plusieurs reprises que j'ai trouvé super intéressant, c'est-à-dire qu'on a des plans fixes avec des personnages qui partent, qui sortent du cadre, et le plan reste un petit moment, et il le fait à plusieurs reprises, et on reste sur la nature en plan fixe, en montrant que en fait, c'est pas que le décor, et ça fait vraiment partie, c'est presque un personnage à part entière. Parce que sinon, on suivrait le personnage direct. Enfin, la caméra le suivrait directement. Donc moi, je l'ai perçu comme ça, justement. J'ai trouvé que c'était un beau film qui mettait vraiment la nature en valeur, même si, après, c'est pas non plus exploité plus que ça. Mais je trouve que c'est aussi une des richesses du film, de pas surexploiter toutes ces pistes, mais de nous laisser un petit peu, et même la fin, en fait. La fin est en même temps une convergence d'un peu tous les éléments qui étaient tus et... notamment de tout ce que le personnage ressentait intérieurement et qu'il ne disait pas. Et en même temps, c'est une ouverture sur plein de choses, parce que elle n'est pas forcément... même moi, je ne suis pas sûre de l'avoir complètement saisie. Et il y a plein d'interrogations. Enfin, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que cette fin essaye de me dire ? Et je pense qu'elle peut dire plein de choses différentes.
Oui, je suis d'accord avec toi, pardon. Et puis, je comprends un peu aussi vos objections sur peut-être que, certes, le lien avec... la nature de la part des ruraux peut être aussi un lien d'exploitation, mais en même temps, est-ce que ce n'est pas aussi la réalité ? Enfin, forcément, ils ont besoin de cet environnement, de l'eau, etc., pour vivre, et c'est comme ça partout, je pense. Et puis, certes, enfin aussi Ryusuke Hamaguchi parle d'un, enfin ça fait très science-fiction, mais parle d'un point de vue situé forcément. Enfin, je pense qu'il habite à Tokyo, etc. Donc il a fait ce film de commande. Peut-être qu'il était un peu waouh, la nature, qu'est-ce que c'est reposant, non. Donc forcément, il y a un point de vue de sa part. Et moi, j'ai aimé aussi le fait que les intrus, entre guillemets, surtout au début, dans la nature, sont représentés par des couleurs qui tranchent. Donc, comme tu as dit, la veste orange fluo, etc. Et ça, j'ai trouvé intéressant un petit point de... Enfin, un intrus, quoi, qui pénètre cette nature inhabitée. Et puis, j'ai bien aimé le fait que le point de vue, justement, comme tu le disais, n'était pas politique, finalement. Enfin, j'adore les films sur l'écologie politique, etc. Mais je trouve que là, ça laisse le spectateur se faire un avis sur la question. Et ça le laisse trancher, comme tu l'as dit, justement, Pauline. Et ça permet d'avoir un film subtil, délicat, et qui n'est pas tranché forcément, et c'est à chacun de se faire un avis là-dessus.
Moi, le moment où le film m'a un peu éveillée, interloquée, c'est, je trouve que le traitement du personnage féminin là, de la, enfin, parce que du coup il y en a deux, et hyper sexiste,
Titan, du coup.
Genre vraiment sexiste, et j'étais assez surprise, et ça m'a un peu fait un espèce de petit électrochoc de j'aime pas trop ce qui se passe. Notamment la scène où ils vont à la rivière porter des bidons d'eau pour les ramener dans le restaurant de ramen. Et il y a un plan genre super long, enfin une scène super longue, où tu la vois qui galère à traîner un bidon d'eau qui fait obviously le poids d'une demi-bouteille de cristalline.
Oui. Bah, c'est-à-dire que les mecs en portent genre 4 ouais, chacun et elle 1, elle n'y arrive pas.
En plus,
pas,
elle joue mal, la pauvre, le fait que ça soit lourd, parce qu'en fait c'est juste pas lourd. Et pourtant, je trouve que il est tellement appuyé ce moment-là. Et voilà, juste petite remarque. Oui, mais alors pourquoi est-ce que
le mec il y arrive ?
Bah moi c'est le truc, c'est encore le truc de l'exploitation, c'est-à-dire que comme t'as un rapport d'exploitation avec la nature, c'est un rapport qui est viril. Et en fait il y a ce truc. Non mais il y a un truc de le rapport à la nature, il a une virilité. Et c'est ça en vrai. Moi c'est vrai qu'il y a, tu l'as relevé, Pauline. Un des personnages qui pour le coup je pense est assez intéressant, c'est le personnage de la fille, parce que elle pour le coup en effet elle a un rapport à la nature qui est autre au final que le personnage principal qui, moi encore une fois, je trouve qu'il a un rôle, enfin une relation néfaste. La fille, elle a un truc intéressant, en effet, mais ça intervient dans les trois dernières minutes, tu vois. Ça ne pop pas avant, et je trouve le film confus parce qu'au final, on a tous des pistes qui en fait se tiennent sur ce qu'on a envie de dire de ce film-là. Et alors, ça, c'est une force, hein, parfois être un film qui est flou, mais moi personnellement, je trouve que voilà, il n'arrive pas à prendre une voie et à s'y tenir. Et au final, il est vraiment bancal.
Ouais, en fait, au final, on arrive à en dire plein de choses et on arrive à surinterpréter des petites bribes parce qu'au final, le film, fondamentalement, moi, je trouve, ne donne rien, quoi. Enfin, et ne te laisse que sur des espèces de petites pistes où tu te forces à y voir quelque chose parce que c'est comme ça qu'on aime parler de films, quoi. Forcément, on aime y voir des choses, on aime les analyser, on aime se dire « Ah, là, on m'a emmené là ». Moi, je trouve que fondamentalement, Hamaguchi il nous emmène nulle part, quoi, mais qu'on se force à trouver des pistes d'interprétation et d'analyse, quoi.
Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je vous rejoins vraiment sur le personnage de la petite fille, mais encore une fois, il est en vrai, il est très, enfin, il est minuscule dans l'histoire. Moi, quand je parlais du rapport à la nature, c'était moins un truc de, enfin, en fait, même pas rapport à la nature. Moi, j'attendais de ce film qui me permette de questionner au cinéma. Via le cinéma, parce que c'est des grosses attentes, hein, je sais, mais c'était Ryusuke Hamaguchi. Je me suis dit, il y a un truc à faire sur comment tu montes la nature au cinéma. Comment tu montes le vivant non humain au cinéma, et comment tu peux aussi en faire quelque chose, un personnage qui a de l'agentivité, je sais pas comment dire, mais qui est filmé comme tel. Or, mis à part ce truc de scène d'exposition qui, effectivement, enfin moi, je trouve vraiment bien fait, et parce que contemplatif aussi montre un truc où tu vois tout ce qui se passe dedans, mais sinon, à part ça, tu le disais, Pauline, les plans s'arrêtent un peu, il y a les personnages qui passent, ils restent un peu sur la nature, mais en fait, les plans sont là parce qu'il y a eu les personnages à un moment, et il n'y a pas un truc... Et on est d'accord, après, ça aurait pu poser un problème de rythme, mais moi, à la limite, du coup, il aurait fallu travailler un rythme beaucoup plus lent, avec beaucoup moins d'interactions humaines. Mais du coup, je trouve que ça manque son propos parce qu'on reste malgré tout très attaché au personnage humain, et je trouve que du coup il pense pas trop ça, même par la caméra, essayer de trouver un truc. Et donc oui, c'est peut-être moi qui avais des trop grosses attentes, mais il n'empêche que du coup je trouve que ça apporte pas grand chose. Ensuite, moi, sur le propos, je trouve moins le film subtil que, comme disait Arthur, il arrive pas à trouver son propos, donc en fait il prend plein de trucs, il prend plein de bribes. Mais moi, les films qui me disent, où à la fin on dit ah, on peut tout interpréter, moi je trouve juste ça un peu bidon en fait. Ça veut dire que le gars a pas vraiment dit son propos, et sur un film tel, je trouve que à la fois pendant la scène de conseil de quartier, il est très clair sur de quel côté il est, a priori, et en même temps c'est vrai qu'après il essaie de rendre les choses un peu plus compliquées entre guillemets, et en même temps, enfin, est-ce que ça le méritait aussi? Enfin, moi ça me dérange pas nécessairement les trucs très manichéens, et là j'ai juste l'impression que du coup il a pas choisi son propos, mais encore une fois je pense que c'est dû à la forme même du film, qui est, il a monté un film à partir d'un autre film, donc quand ça part de là, il a pu rajouter quelques scènes, mais effectivement son propos se perd, ses dialogues se perdent, parce qu'il a pas pensé le truc dans son entièreté, donc c'est un peu dommage. Et moi je reviendrai quand même sur la fin qui m'a fait me sentir mais à quel point débile, j'ai juste pas compris. Non mais pardon, j'aime pas les films comme ça, j'aime pas me sentir bête face au cinéma, et là j'ai pas compris, est-ce que c'est une hallucination, est-ce que j'ai juste pas compris. Et en fait j'ai beau bien aimer analyser les films, j'aime quand même bien quand on me raconte une histoire et que je sais ce qui se passe à la fin. Or là c'est pas le cas, et on peut se dire oui c'est super, chacun peut interpréter comme il veut, mais moi j'interprète plus ça comme de la fainéantise qu'autre chose. Non mais c'est vrai, une fin où on ne te dit pas ce que c'est.
Il y a des très bons films où tu comprends pas forcément, genre.
Oui, non mais où tu comprends pas forcément. non mais j'aime beaucoup ce qu'il a fait avant, mais le principe de dire en fait la fin, je vais la laisser floue pour que les personnages y voient ce qu'ils veulent, mais là c'est tellement flou que c'est pas une fin.
Après la fin est pas floue.
Bah oui, après, tu sais pas comment l'interpréter. Elle veut dire quoi? Elle est crue. Bah je sais pas. Est-ce que c'est une hallucination? Est-ce que c'est vrai? Tu vois, tu te demandes. Pas nécessairement, le flou est là, il y a une brume et tout. Mais ce que tu disais, Pauline, hein, et je pense que c'est un argument, mais c'est juste moi un argument que je trouve très facile de dire, j'ai pas réussi à trouver une fin vraiment...
Non mais pas de ta part,
de la part des cinéastes qui le disent, je veux dire, pas du tout de ta part, non mais... Enfin,
genre, ça rattrape là, on les rame.
Non mais je veux dire, c'est facile quand t'es cinéaste de... Enfin, j'aime bien les trucs où tu comprends pas tout, effectivement, mais quand il y a une fin et que c'est tellement défini à ce stade, j'aime bien qu'on me guide et pas qu'on dise c'est laissé à la libre interprétation des spectateurs. Évidemment que les spectateurs ils font leur propre film et ils ont leur propre interprétation, mais à un moment un film c'est là pour donner un avis, pour donner une vision, donc ta fin elle doit aussi le faire.
Après je trouve l'avis tu l'as aussi dans le titre, enfin moi tout le long je me suis dit pourquoi ce titre, et à la fin je trouve il prend tout son sens. Et sur cette fin en demi-teinte, nous allons passer au dernier film de la semaine, qui est donc Madame Hoffman, présenté par Arthur.
Madame Hoffman est le nouveau documentaire de Sébastien Lifshitz qui suit Sylvie Hoffman, une infirmière, je crois, qui travaille dans l'hôpital Nord de Marseille depuis plus de 40 ans et qui va bientôt prendre sa retraite. Et du coup, on va suivre du coup les deux dernières années de son travail à travers les aventures qu'elle vit dans le service, mais aussi avec sa mère, son mari et sa fille. Enora, nous n'étions pas d'accord pour le film précédent. Sommes-nous réconciliés cette fois-ci?
Je crois que oui. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé ce documentaire. J'aime bien le travail de Sébastien Lifshitz. Habituellement, je me souviens avoir vu Adolescente à la toute fin de la mienne. Il y a quelques années.
C'est vieille maintenant.
Ah, oui. Il y a quelques années, qui m'avait beaucoup marquée. Et ce que j'aime bien dans ce qu'il fait, c'est que déjà, on s'en rend pas compte, mais quand on y réfléchit, on y pense forcément. Enfin, il y a un travail incroyable qu'il a mené. Enfin, je pense qu'il y a des heures de rush pour pouvoir capter tous ces moments-là, parce que c'est un documentaire qui a très peu de face cam. Il y en a un petit peu, mais assez peu, et je trouve ça super agréable. Ça fait pas documentaire téléfilm pour France Télévisions, quoi. Je trouve ça super subtil. En plus, il a dû trouver quelqu'un qui est donc l'infirmière cadre de santé, je crois, du service d'oncologie de l'hôpital Nord de Marseille, et qui, ironie du sort, dès la première scène, on voit que c'est elle qui est malade, elle a souffert d'un AVC. Et en fait, ça retranscrit bien un peu la situation de l'hôpital public aujourd'hui, qui est complètement au bord de la crise de nerfs aussi, et comment ça peut rendre son personnel dans la même situation. Donc voilà, j'ai trouvé ça hyper intéressant de ce point de vue-là. Ça me rappelle aussi toute la menace néolibérale qui plane sur la santé publique, parce que, par exemple, l'infirmière Sylvie Hoffman va, dès le début, dire qu'elle va vouloir se soigner dans une clinique privée, alors qu'elle travaille pour l'hôpital public. Et aussi dans les échanges avec son chef de service, on voit qu'il parle d'intérimaires qui sont payés trois fois le salaire des médecins et des infirmières fonctionnaires, enfin, qui travaillent dans le public, en un mois. Donc je trouve que c'est un film important sur le débat, enfin, pour le débat public en ce moment, et sur un portrait de femme qui est super subtil. J'ai aussi beaucoup aimé, je sais pas ce que t'en as pensé toi, mais j'ai beaucoup aimé les échanges avec sa mère qui étaient hyper intéressants, et sur le décalage de mentalité, notamment par rapport au cancer du sein. La mère, elle dit « Quoi, tu veux te faire enlever les seins pour prévenir d'un éventuel cancer du sein ?» Parce qu'elle est aussi porteuse du gène que sa mère a eu, et sa mère a eu un cancer du sein. Et elle dit « Bah oui, j'ai pas envie de vivre ce que t'as vécu, de me faire... d'avoir une tumeur au dessin, etc. Donc je préfère les enlever. » Et sa mère, elle comprend pas que sa fille souhaite avoir... Enfin, elle comprend même pas qu'on peut se faire des seins en plastique. Enfin bref, là je m'étale un peu, mais j'ai trouvé ça super intéressant, touchant, et voilà, je sais pas ce que toi t'en as pensé, Arthur. Enfin, je crois que tu es du même avis à peu près.
Ouais, alors que j'étais... Je n'avais pas forcément envie de voir le film. Le problème, c'est que je suis de base pas quelqu'un qui suit. Quoi ? Eh ben oui, parce que comme personne ne l'a vu, hein, déjà que j'ai plus d'accred, voilà. Mais c'est ça, merci.
J'ai toujours la carte UGC.
Mais j'ai toujours la carte UGC, je peux toujours aller voir les films.
Thierry ne te l'a pas fait.
Il ne l'a pas encore volé, mais je l'ai caché. Mais moi, c'était le documentaire est de base un genre qui me plaît pas beaucoup, parce qu'il y a souvent le risque, de toute façon, que le sujet qui est filmé devienne plus intéressant que le film en tant que tel.
Comme Apollonia.
Non, mais alors Apollonia, moi je trouvais que ça, justement, ça ne partait pas dans cet accueil-là, mais je peux comprendre que ça peut, enfin, que la mise en scène peut paraître en deçà du personnage qui est filmé, ce qui est toujours dérangeant, parce que d'un coup, ça devient plus une œuvre de cinéma, ça devient simplement un documentaire à but informationnel. Ce dont j'ai pas de problème, mais Sébastien Lifshitz, lui, fait du documentaire de cinéma, et c'est un réalisateur à lequel j'avais très envie d'aller, parce que les thèmes dont il parlait me donnaient très envie. En même temps, je refusais d'aller voir ses films parce que j'avais très très peur de comment le documentaire allait se marier à ça. J'avoue que là, j'ai pris une claque immense. Merci pour les bruitages, Genora. Voilà, c'était vraiment un film qui m'a beaucoup remué. J'ai vraiment de mal à en parler. Déjà, je trouve qu'il évite cet écueil-là d'avoir un sujet qui est plus intéressant que la manière dont il le filme, notamment parce qu'il ne va pas faire un film pamphlé sur la décrépitude de l'hôpital public, ce qui était le risque, en fait, de vouloir dire « Oh là là, on va parler de comment l'hôpital public s'effondre en allant parler à chaque personne, etc. » Alors qu'on peut tout simplement le faire en parlant de la vie morale, de ce qu'est d'être une infirmière, du peu de reconnaissance qu'on a, en fait, collectivement, nous, pour ce type de métier-là, alors qu'elle vit des choses qui sont vraiment horribles. Et le film a l'intelligence de mettre de côté, en fait, finalement, pendant une grande partie, le problème de l'hôpital public qui s'effondre.
Pendant le Covid, en plus.
En plus, pendant le Covid. Donc, c'est-à-dire qu'il aurait pu faire un film complètement sur « Ah là, on n'a pas de place, on est débordé, machin ». C'est en fond, mais c'est que en fond, en fait.
C'est parce que
ce qui intéresse, en fait, Sébastien Lifshitz, c'est comment une infirmière qui, du coup, est en département d'oncologie, donc qui traite quand même des patients qui, pour certains, ne sortiront jamais de ce service-là, comment elle vit ça, et elle vit, en fait, le quotidien face à la mort. Et c'est un truc qui, m'a beaucoup touché, parce que, de toute façon, on a tous connu ce genre de situation avec des proches. Et moi, ça m'a vraiment, vraiment mis aux larmes d'avoir une personne qui, constamment, dans son quotidien, elle est face à la mort. Et en plus, qu'elle le retrouve finalement dans sa famille, vu qu'elle est tellement baignée dans ce métier-là, où en fait, on ne peut pas en sortir, c'est ce qu'elle dit, en fait. Constamment, elle est baignée dans ce métier-là, elle ne peut pas avoir une autre vision que ce qu'elle voit de tous les jours dans le service. Donc du coup, finalement, les relations qu'elle a avec sa famille, ça devient des relations quasiment qu'elle a de patient à infirmière. Et c'est vraiment un film qui m'a bouleversé. Je vais avoir peu de choses à en dire, mais moi, je vous conseille d'aller le voir. Alors, il faut avoir le moral bien accroché, donc choisissez votre moment, je pense, pour aller le voir. Mais c'est vraiment un film qui est d'une beauté incroyable, d'une tristesse, en même temps d'une mélancolie et même un peu de joie à la fin, vraiment complètement folle. Il est la réalisation est magnifique, je trouve un jeu de montage qui s'est très très bien géré, les décalages en fait entre des moments qui peuvent être plus légers, plus joyeux et des moments beaucoup plus durs, et de savoir au bon moment bien couper des images qui, moi ça me fascine toujours, les réalisateurs ou réalisatrices de documentaires qui font des belles images en documentaire, genre c'est sur le vif et le mec il arrive à te faire des super contre-plongées avec des lumières incroyables. Vraiment ça m'a fasciné, je pense que ça me libère en fait d'aller voir tous les autres films de Sébastien Lipschitz, et je vais sauter sur Adolescente qui vraiment me donnait hyper envie et dont j'avais beaucoup de craintes parce que ce film là pour moi est peut-être pour l'instant le meilleur film que j'ai vu depuis le début de l'année.
Oui, et je suis complètement d'accord, et je trouve ça notamment touchant les moments où elle se rappelle encore de notamment du tout début de son métier. Elle a dit que c'était, enfin dès le début de son métier, ça a changé complètement sa vision qu'elle avait sur le monde en fait, parce que elle a vu l'horreur entre guillemets et la maladie et la mort tout de suite, et notamment quand il y avait une petite fille, elle parle d'une petite fille à qui elle devait donner un médicament par intraveineuse, quelque chose comme ça, et qui, elle, la petite fille, voulait aller aux toilettes avant d'avoir son médicament, et elle a même pas eu le temps, elle lui a dit non d'abord le médicament, et elle a même pas eu le temps de la piquer, que la petite fille est morte d'un arrêt cardiaque, et que ça l'a marqué pendant tout le reste de son métier, et qu'elle se dit qu'après avoir vu ça, et malgré tout, malgré ce qui pourrait paraître lourd, le film n'est pas lourd du tout, enfin on ressent tout ça, on en sort indigné de la situation de l'hôpital public, du sort du personnel soignant, etc. Mais pour autant, ce que j'ai retenu, c'est les moments de joie, les moments de confidence et de connivence entre les collègues, d'amour qu'elle a envers sa famille et que ses proches ont pour elle. Et j'ai trouvé ça super beau.
Et comme tu l'as dit, en fait, on s'intéresse d'abord aux... Enfin, leur sentiment en fait de la vie de tous les jours, et tu as dit, il y a des moments de joie, de tristesse, et ça. Et ça, c'est intéressant, et c'est je trouve quelque chose de complémentaire en fait à ce qu'on documente aujourd'hui de la crise de l'hôpital public, qui, on le sait, il y a un manque d'effectifs, un manque de moyens, et en même temps, un truc aussi, et ça, on le perçoit moins parce que on est moins dedans, mais l'aspect néolibéral du management de façon d'aujourd'hui de l'hôpital public fait que les infirmiers et les infirmières et le personnel soignant dans sa globalité sont aujourd'hui des variables en fait d'ajustement. Ce sont des chiffres, on compte ça en nombre de lits, mais imaginez si on devait compter en impact psychologique de ce que c'est d'être aujourd'hui infirmière. Enfin, quand elle en parle, c'est d'une lourdeur, et elle le dit à un moment, et je trouve que c'est peut-être le moment le plus fort. Je la cite du coup, on fait croire à tout le monde, y compris à nos patients, que nous, on est des robots, qu'on peut affronter la mort et ça ne nous pose pas de soucis, on peut affronter des choses dures et ça ne nous pose pas de soucis, mais enfin, à l'intérieur, on se liquéfie à chaque fois qu'on perd un patient, et ils en perdent plusieurs par semaine. Donc, il y a un truc d'une dureté extrêmement forte à vivre ça, et c'est bien, je pense, et c'est sain de prendre certains métiers qu'on a trop l'habitude de résumer à de simples variables d'ajustement, de lignes dans des budgets, et de finalement en mettre des visages, des émotions dessus, parce que ça fait se rendre compte que on peut délibérément pas laisser l'hôpital public dans cet état-là pour les patients, mais aussi pour les personnes qui sont à l'intérieur, puisqu'elles sont dans un métier qui est hyper dur, et en plus, au-delà de ça, on les met dans des conditions qui sont intenables au niveau des effectifs. Donc moi, c'est un film qui, je trouve, évite complètement le piège que ça aurait été de faire un ABCD de comment va l'hôpital aujourd'hui, pour se concentrer sur une figure et nous dire, mais voilà, si on met l'hôpital dans la merde, c'est des gens comme ça qui sont essentiels pour qu'on vive, qui vivent des choses atroces à longueur de journée, qu'en plus on leur pisse dessus, tu vois. Donc moi, c'est voilà, un film que j'ai trouvé grandiose, autant sur l'aspect intime, personnel du récit qui monte, que l'aspect politique qui peut se dégager derrière, et le bon échelonnage qui est entre les deux.
Oui, voilà, je suis complètement d'accord sur le fait de montrer des êtres sensibles derrière tous ces chiffres. Par contre, on n'a pas parlé de l'affiche, que moi je trouve affreuse.
Oui, et de la bande-annonce aussi, parce que moi, ça me donne pas du... Enfin, je me demande ce qui a été fait au niveau de la distribution, parce que et de la communication, parce qu'en vous entendant parler, le film a l'air d'être incroyable. Oui. Ça me donne évidemment très envie de le voir.
Mais l'affiche est horrible.
L'affiche est horrible, et la bande-annonce aussi.
Colgate pour...
La bande-annonce donne très très peu envie. Moi, j'avais l'impression que c'était un Lipschitz raté, ce qui m'a donné moins envie de le voir. Enfin, je ne comprends pas comment ils ont pu faire ces choix-là.
Il me semble que l'affiche d'Adolescente était pas mal dans ma tête, mais celle-là, on dirait une sorte de pub pour médicament pour senior, je sais pas. Mais
ou alors un livre pour ado, enfin la police ouais. Bleue et rose comme ça. C'est horrible.
Ou une image libre de droit sur Canva, genre.
Ouais, oui, docu France TV, France 3 qui passe à 14h30, quoi.
Non, ce ouais. Qui n'est pas du tout le cas, mais...
Ce qui est l'inverse du film.
Eh bien, cette fin nous a redonné espoir et confiance en le cinéma, et ça, c'est beau. J'espère que vous avez aimé cet épisode, et on vous dit à la semaine prochaine.
Au revoir.